j'ai eu la folle idée d'en apprendre plus sur le mouvement. Je vous embarque avec moi. Ça vous dit ? Je vais aller discuter avec des personnes qui ont décidé de se mettre en mouvement et qui aident les gens à faire de même. Qu'ils soient professionnels de santé, professeurs de diverses méthodes ou porteurs de chouettes projets, ils vont nous expliquer comment se remettre en mouvement de manière intelligente pour se réapproprier son corps. Je m'appelle Elissa, je suis professeure de Pilates et de gyrotonique. Je suis votre hôte et je vous présente les artisans du mouvement. Cette semaine, je vous propose un épisode où on va parler de pieds. Oui, vous savez, ceux sur lesquels on marche toute la journée, mais dont on oublie souvent de prendre soin. Pour cela, j'ai invité Pauline, qui est pédicure-podologue, pour nous en expliquer un peu plus sur son métier, mais pas que. Avec elle, on parle aussi de son parcours, de comment elle a découvert ce métier, de son rapport au mouvement et au sport, de comment transmettre l'envie à ses enfants de bouger. Et on termine par une conversation au cours de laquelle j'explique pourquoi j'ai choisi d'appeler le podcast « Les artisans du mouvement ». J'espère qu'il vous plaira et tout de suite, place à l'épisode. Bonne écoute.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, je vais te laisser te présenter, donc me donner ton nom, ton âge et ta profession.
Alors, je m'appelle Pauline Tabary, j'ai 33 ans et je suis pédicure-podologue.
Et c'est quoi ton métier? Il consiste à quoi?
Alors, pédicure-podologue, pédicure, en fait, au niveau du latin, pédi, c'est le pied, cure, c'est le fait de soigner. Et podologue, c'est plutôt grec, et podo, le pied, logos, le discours. Donc, ça veut vraiment dire parler le discours du pied, soigner okay. Le pied. On dit souvent que le côté pédicurie, c'est tout ce qui va être soin du pied, les ongles incarnés, le traitement des mycoses, enlever les durillons, les cors. Donc les cors, c'est souvent les toutes petites duretés qu'on peut avoir sur les orteils ou sous le pied. Ça fait vraiment comme un petit clou qu'on aurait dans la chaussure. Un durillon, c'est une callosité qui est bien plus étendue. Donc c'est plutôt quand sous le pied, on a une grosse corne qui va faire 2-3 cm². Un durillon, okay. C'est toujours plus répandu. Voilà.
Et sur les côtés aussi
Sur les côtés, souvent c'est plutôt des durillons.
D'accord.
Et le cors, c'est vraiment les patients vont souvent nous dire « j'ai comme un petit caillou dans la chaussure ou comme une petite épingle
». Ouais.
On s'occupe des crevasses qu'on peut avoir souvent sous les talons. Et puis parfois, parfois les patients vont venir nous voir s'ils ont des petits eczémas ou des petites verrues pour avoir notre avis médical. Après, parfois, on va renvoyer vers le médecin.
D'accord.
Et donc, le côté podologue, c'est surtout quand on va faire des semelles orthopédiques. Donc, semelle orthopédique, c'est toujours un mot qui fait peur, mais ça ne veut pas dire pourtant qu'on a les pieds complètement foutus. C'est juste qu'on va faire une semelle qui peut être très fine et aller dans la chaussure de manière à répartir les appuis. Ça peut être des enfants, parfois, qui trébuchent souvent ou qui usent vraiment leurs chaussures de manière totalement anormale. Ça peut être des adolescents qui vont avoir des douleurs aux pieds, chevilles, genoux ou hanches en pratiquant leur sport. Ça peut être évidemment des adultes, des sportifs, comme des personnes parfois en surcharge pondérale, qui du coup ont des durillons qui reviennent trop vite, trop fréquemment et qui leur font terriblement mal. Et
d'accord.
Du coup, la semelle, elle est là pour répartir les appuis, pour remettre le pied dans une position qu'on appelle physiologique, donc la position la plus naturelle et neutre possible.
Et donc, du coup, ta clientèle, toi, tu travailles en cabinet libéral?
Alors, il y a moins de 1% des podologues qui travaillent à l'hôpital. Hein. C'est vraiment,
d'accord.
À plus de 99%, c'est que du libéral. Et effectivement, ma patientèle, je dirais qu'il y a quand même 50% de personnes retraitées. Que c'est vrai que plus on vieillit, plus la peau est plus fine, se rétrécit davantage. Donc, les durillons se font plus facilement, plus rapidement. Mais pas que, voilà, j'ai pas que des personnes âgées. Ça peut être, exemple tout bête, mais une avocate ou une hôtesse de l'air qui est tout le temps en talon aiguille toute la journée et qui du coup va avoir des cors à presque tous les orteils. Ça peut être la boulangère ou la coiffeuse qui passe ses journées debout à piétiner, une vendeuse, voilà. Et puis, ça, c'est aussi quelques enfants, justement, parce que je te disais pour les semelles, on peut voir des enfants. Maintenant, en règle générale, on ne fait pas de semelles à un enfant qui a moins de 7 ans, sauf quand on constate vraiment une grosse déformation. Mais en théorie, on part du principe quand même qu'un enfant va avoir sa marche définitive à l'âge de 7 ans. Alors voilà, je ne dis pas que dans 100% des cas, on ne fera jamais de semelle, mais
on va surveiller. Des handicaps, peut-être des choses comme ça, là, tu...
Ça peut arriver de commencer à 4 ans, quand on constate vraiment quelque chose de très fort, un gros trouble statique. Mais voilà, moi souvent, je dis aux parents, on va surveiller tous les ans, revenez l'année prochaine qu'on refasse un point. Voilà, à partir de 7 ans... On
d'accord.
peut mettre, si nécessaire, des semelles. Et évidemment, tout le monde n'a pas besoin de semelles. C'est pas, C'est vraiment, voilà, il y a des signes annonciateurs. Quelqu'un qui trébuche souvent, quelqu'un qui va traîner des pieds, quelqu'un qui... Quand il y a une douleur. Alors c'est sûr que s'il y a une douleur sur le membre inférieur, on va se poser des questions. Et j'ai tort de dire seulement membre inférieur parce que ça peut être des douleurs au niveau du dos également.
Bah, les pieds, ils sont à l'origine de beaucoup de douleurs, enfin, de beaucoup
Voilà.
de douleurs, en fin de compte, c'est le début de notre posture.
C'est ça.
Ça s'empile un peu dessus.
Exactement. Mais quelqu'un qui nous dira j'ai souvent mal aux chevilles ou quelqu'un qui fait des entorses à répétition ou voilà une grosse douleur au genou à la pratique de la course à pied sur 8-10 km, si la personne nous dit ben, j'ai tout le temps un genou qui fait mal ou qui fait un petit bruit, ou, enfin, évidemment là on peut regarder et souvent avec les semelles on va rétablir les choses.
Et pour prendre les semelles, tu as une machine qui montre le poids que
Alors
tu as de quel
tout ça
côté
existe, on
ou...
appelle ça les plateformes
D'accord.
barreaux podométriques. C'est relié à l'ordinateur, il y a des petits capteurs, on voit plein de couleurs, de bleu à rouge. En général, rouge, c'est
Ouais.
les gros appuis. Tous les cabinets ne sont pas équipés comme ça.
D'accord.
Moi, par exemple, mon cabinet est bien plus modeste et justement, je n'ai pas cette fameuse machine qui montre sur l'écran d'ordinateur. Moi, le patient va monter sur une vitre et sous cette vitre, à 10 cm en
Ouais.
dessous, il y a un miroir. Et en fait, du coup, je vois tout bêtement les appuis, la peau là où ça appuie fort est très jaune
Ah bah
à
oui.
travers la vitre. On appelle ça un podoscope.
D'accord. Moi, t'as pas besoin en fait ouais, d'un
C'est
ordinateur qui le...
BABA.
Et ouais.
Voilà. Après, souvent, les podologues qui sont très équipés avec tout le matériel informatique high-tech, souvent, c'est aussi ceux qui vont peut-être avoir des sportifs de haut niveau, des personnes pour qui on veut encore plus de précision.
Ouais, pour aller plus
Néanmoins,
dans la performance ou quelque chose comme ça.
voilà, maintenant je pars du principe qu'avec mon petit matériel, le
Tout à
béaba,
fait.
ça suffit quand même. Mais.
Nous, on faisait avec des balances. Moi, quand les personnes arrivaient chez nous dans le studio où je travaillais, et si je voyais qu'une personne était vraiment, tu sais, que tu avais l'impression qu'il y avait vraiment un déséquilibre, en fait, j'avais deux balances, toutes basiques, et je les faisais monter sur la balance pour voir si, en fait, il y avait un pied sur
Qui
la
pesait plus
balance
fort que l'autre.
exactement.
Alors, j'ai jamais entendu cette méthode.
Bah après je sais pas si c'est mais c'était
C'est un.
genre en mettant tu sais si tu mets plus de poids
C'est
d'un
ça.
côté ben logiquement ton poids il penche un peu plus d'un côté après ça n'a jamais été des grands écarts tu sais mais souvent tu regardes et tu dis mais c'est bizarre la personne elle
C'est très intéressant, mais pour vraiment que tu sois sûr, pour que tu sois bien fiable, que la
ouais
personne, voilà, que son tronc reste vraiment droit et effectivement, déjà qu'elle ne se penche
regarde
pas,
ouais.
parce que parfois les patients ont envie de regarder, mais même moi, quand ils sont sur le podoscope, ils veulent un peu pencher la tête en
C'est
avant.
vrai.
Il y a de la curiosité que je comprends tout à
Ouais.
fait. Alors souvent, je leur dis, attendez, pour l'instant, vous regardez bien droit en
Ouais.
face de vous, comme si vous attendiez le bus, et une fois que j'aurai bien noté, enfin, que j'aurai pris mes notes, vous pourrez baisser la tête et regarder. Et voilà.
Et du coup, comment ça t'est venu? Comment t'as découvert la formation de
Alors,
pendologue,
Elisa, je vais être franche avec
podologue?
toi, c'est pas une vocation. En fait, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport, presque tous les soirs j'avais un entraînement. Au
C'est
départ,
toujours le cas. Hein.
au départ, au départ, j'avais pensé à être prof de sport, et puis après, je m'étais dit, ah oh non, kiné, ce sera parfait. Et puis, j'ai malheureusement raté le concours de kiné. Et comme ça faisait déjà 2 ans que je faisais ma prépa dans le paramédical, entre-temps, j'avais découvert ce métier de podologue. Et puis finalement, une amie de mes parents qui courait énormément et qui faisait des marathons m'avait emmenée voir son podologue. Et je me suis dit, mais en fait, ça peut être un très bon compromis parce que je continuerai à avoir des sportifs comme j'en rêvais. Je reste dans la santé. Et donc voilà, donc c'est un métier clairement avant l'âge de 20 ans que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais entendu ce terme. Et j'ai plusieurs amis sportifs qui, parce que bon, j'ai la chance d'habiter en Haute-Savoie et par là-bas, avec la montagne, on fait beaucoup de trails. Et j'ai souvent des amis qui vont m'appeler le dimanche soir en me disant, Pauline, j'ai un hématome énorme sous l'ongle, qu'est-ce que je dois faire? Ben, la réponse, c'est qu'il faut percer l'ongle, mais il faut le faire dans les 48 heures qui suivent la sortie de trail. Parce que si tu attends trop, l'hématome va coaguler et donc après, tu peux plus du tout vider cette poche. Et du coup, et souvent, mes amis me surprennent parce qu'en fait, ils ont envie d'aller aux urgences ou d'aller voir leur médecin traitant.
Ils
Et
savent
je
pas
leur dis, il faut
quoi.
venir voir un
Ouais.
pédicure podologue.
Mais c'est une profession, moi je la connaissais, enfin je la connaissais pas. Non, je la connaissais pas
Très
avant de te
méconnue des
connaître.
jeunes.
Je crois
Mais
qu'avant
je
de te
pense,
connaître, je la connaissais pas.
j'ai beaucoup d'amis comme ça qui me disent, bah en fait, c'est en te connaissant qu'on a découvert ton métier. Alors que souvent, toutes les petites mamies connaissent très bien mon métier.
Mais c'est fou. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, le pied, tu l'utilises tout le temps,
C'est vrai.
toute la journée, mais on n'apprend pas à prendre soin de nos pieds. Enfin,
Tu sais, moi, ce que je trouve encore plus fou, il n'y a pas longtemps, j'ai quand même un jeune, 30 ans, quoi, qui est venu me voir avec deux énormes durillons sous chaque pied. Il était saisonnier, il venait de faire sa saison de ski. Et puis, il me dit, je suis en arrêt de travail pendant 8 jours parce que j'ai tellement mal sous les pieds. Je suis allée voir mon médecin traitant, il m'a mis en arrêt et il m'a dit d'aller faire une radio. Je lui enlève ses durillons. Et en fait, en sortant, il me dit, je suis trop bien. Il me dit, je suis comme sur un nuage, ça va beaucoup mieux, j'ai plus aucune douleur. Et là, quand même, j'ai eu peur de penser qu'un médecin traitant proche de la retraite l'avait envoyé faire des radios. Donc, il a un petit peu, enfin, encore plus creusé la tête de la sécu. Et qu'il n'a même pas pensé à dire à son patient, allez voir un podologue. Et si vous continuez à avoir mal, on fera d'autres examens complémentaires. Et voilà. Et ce patient-là, en plus, il avait été faire ses radios la veille. Il a suivi les consignes du médecin. Et je veux dire, on aurait très bien pu éviter cet acte. La radio, elle servait à rien. Il avait juste énormément de cornes et mon soin a amplement suffi. J'ai eu ces nouvelles 3 mois après où il m'a dit la douleur n'est jamais revenue, je suis très bien. Et voilà, c'est un métier qui est malheureusement méconnu.
Mais je pense qu'il y en a pas mal dans le paramédical qui sont méconnus, mais qui touchent à des choses spécifiques et qu'en fait, on a tendance directement à aller voir, à aller écarter tout ce qui est gros, tout ce qui est, je sais pas, fracture et tout. Et en fait, on oublie de penser.
C'est vrai, oui. Le médecin traitant, souvent, va plus partir sur une IRM, une échographie, une radio pour éliminer certains diagnostics, ce que je
Bon,
comprends.
ouais, moi aussi, bien sûr.
Mais voilà, peut-être que parfois, on oublie qu'effectivement, il y a quelques professions qui peuvent donner leur avis. Par exemple, autre exemple, moi, j'ai une patiente qui est venue avec un corps très infecté, il y avait du pus, enfin, c'était très, très moche. J'ai pu gratter presque jusqu'au tendon, passons, sur un orteil. Et en fait, ça faisait 3 mois qu'elle avait mal à cet orteil et 3 mois qu'elle avait des soins infirmiers. Le médecin traitant lui avait demandé d'aller deux ou trois fois par semaine de voir l'infirmière pour qu'elle refasse un pansement avec de la bétadine, qu'à chaque fois qu'elle nettoie un petit peu la plaie. Mais à aucun moment, ni l'infirmière ni le médecin traitant n'a pensé à dire bah, allez peut-être voir le podologue en face, quoi, au coin de la rue. Et je trouve ça dommage parce que cette dame, pendant 3 mois, elle a pris des antibios, elle a fait ses soins, mais ça n'a pas suffi. Et au final, eh ben, voilà, en restant tout à fait modeste, j'ai réussi, moi, en 2 séances, Mais parce que, enfin,
Mais parce que oui,
c'était mon
oui,
domaine.
exactement.
Et j'étais quand même super étonnée que l'infirmière libérale n'ait pas pensé à lui dire, mais attendez, allez voir quand même un pédicure une fois, voir s'il va faire comme moi ou s'il va faire différemment. Enfin voilà, il y a des choses parfois qui me surprennent.
Donc du coup, on va retourner un peu en arrière à Pauline quand elle est dans ses études. On apprend quoi? On apprend le pied, j'imagine, vu qu'il y a le pied.
Mais pas que.
On apprend ben, les pathologies du pied ou des choses comme ça. Franchement, je dois te dire un truc. Pour soigner des pieds, du pus, des trucs comme ça, il y a beaucoup de monde, je pense, qui serait hyper réfractaire. Enfin, moi, c'est pas un truc qui... Moi, je peux voir du pus, et je suis hyper étonnée, mais je peux voir du pus. Ça me dégoûte pas trop. Mais je connais plein de gens où je me dis, ils s'en
Alors,
iraient pas.
non, je vais être franche avec toi, Elissa. Tout le monde me dit souvent en rigolant, mais les odeurs, les pieds qui
Oh
puent,
non,
tout
je ne
ça.
joue pas.
En général, les gens, quand même, avant de venir voir le pédicure podologue, ils font quand même une bonne toilette des pieds. Et même très souvent, moi qui ai de l'odorat, je sens souvent une odeur de javel. Et du coup,
De Javel.
je devine que les patients, et ça part d'un très bon sentiment, avant de venir, ont fait un bain de pied à l'eau
Ah
froide et
ouais.
qu'ils ont mis une cuillère à soupe, j'imagine, ou un bouchon d'eau de javel. Et on le voit souvent chez les personnes âgées qui ont du mal en fait à aller jusqu'à leurs orteils et
Ah
qui ont
ouais.
du mal à prendre un gant de toilette et gratter bien, enfin voilà, le passer entre les orteils. Du coup, je trouve ça très sympathique parce que ça veut quand même dire qu'ils ont fait l'effort, ils voulaient être sûrs que ce soit propre. Merci. Pour tout ce qui est pus et plaie, c'est pas non plus des grandes surfaces. Je veux dire, à chaque fois, s'il y a du pus, c'est sur le sillon d'un ongle dans un orteil. C'est pas gros comme zone, d'accord? Il y aura un petit peu de pus. Alors l'ongle incarné, ça peut avoir une odeur vraiment dure. Parfois, ça sent la chair fraîche un peu. Bah parfois, ça fait 2 3 jours que c'est ouvert, donc il y a une odeur un peu comme de la viande que t'aurais oubliée dans une pièce où il fait un peu chaud. Et ben 2 jours après, ça sent pas bon. Mais en
Au
soi,
même titre
on a quand même pas mal de produits. Non, et puis tu vois, on va tout de suite mettre un peu de Daikin ou un peu de Biceptine. En fait, on désinfecte.
Exactement.
Déjà, l'odeur, elle part quand même. Et puis, on porte un masque. Nous, on n'a pas attendu le Covid. On portait
Ouais.
déjà les masques. Et puis après, tout ce qui pourrait vraiment être
Oh, le cœur.
haut
Mais
le
après,
cœur,
tu t'habitues.
c'est plus tout ce qui est escarre. Et ça, c'est plus à l'hôpital. Donc ça, c'est plutôt des podologues qui, une fois qu'ils ont leur diplôme, vont vouloir poursuivre et partir dans le milieu hospitalier. Moi, j'ai jamais eu à traiter ou à voir, en tout cas,
T'as fait des
des escarres
stages?
sous les talons. On fait des stages à l'hôpital. Mais j'ai jamais rien vu de trop répugnant ou de trop effrayant, quoi. J'ai eu cette chance. On parle souvent des pieds du diabétique parce que bon, bah, le diabète, il va attaquer en... Le diabète, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va abîmer les veines et les artères. Et en priorité, tout ce qui est plus loin, t'as tout compris. Enfin, voilà, tu savais.
Pardon, désolée.
Non, mais tu fais bien. Mais non, mais tu fais bien. Du coup, le pied du diabétique, c'est vrai qu'il est plus rapidement touché et puis il attaque aussi les nerfs, le diabète. Donc, le diabétique, souvent, il va perdre sa sensibilité. Okay. Ça veut dire qu'il peut avoir un tout petit caillou dans sa chaussette ou dans sa chaussure, ne pas le sentir et passer une journée entière à debout, à piétiner, tout ça. Et puis, en fin de journée, le caillou, il a peut-être un petit peu pénétré. L'épiderme, et le diabétique, il s'en est absolument pas rendu compte parce qu'il le sent pas. Et finalement, c'est quelques jours plus tard, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit aux diabétiques, à chaque fois qu'ils font leur toilette, de prendre un petit miroir et de regarder sous leurs pieds. Sauf s'ils ont la souplesse pour lever le pied, mais autrement, quand même, de passer un petit miroir, juste vérifier, et on leur dit surtout ne marchez jamais pieds nus. Et passez la main dans vos chaussures avant de les enfiler pour être sûr qu'il n'y a pas un caillou, une écharde. Fin...
Parce qu'il y a une perte de sensibilité.
Parce qu'il y a une perte de sensibilité. Okay. Tu pourrais presque parfois, certains leur planter une punaise. Il ne la sentirait pas. Et le problème, bah, c'est qu'en quelques jours, ça peut presque faire une sorte de gangrène, ça peut s'infecter, ça peut...
Ça peut ne pas être beau, ouais.
Voilà. Donc, c'est pour ça que le diabétique a un pied vraiment particulier. On regarde davantage. Et à la limite, ben, et surtout, un patient diabétique va très mal cicatriser à cause de son diabète. Mmh. Et donc, le risque, c'est que si justement, il y a un orteil qui est abîmé et qu'il faut l'amputer, on craint toujours, si ça cicatrise mal, après, de devoir amputer tous les orteils, et puis la moitié du pied, puis la cheville, enfin... Et on sait que les cicatrisations ne sont pas belles. Et il y a certains podologues qui se spécialisent dans le pied diabétique. Eux, okay, je pense qu'ils voient des choses un peu plus « gore », entre guillemets. C'est souvent à l'hôpital. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, mon métier, je pense, Elissa, que si tu passais une journée ou une semaine avec moi, tu n'aurais pas peur. Il n'y a rien de...
Ah non, alors moi, j'ai pas... alors moi, j'ai pas du tout... Alors, moi, je ne suis pas du tout... Justement, de ce côté-là, je supporte assez bien.
Voilà, il n'y a pas de grosse hémorragie, même quand parfois ça saigne un peu, on ne fait pas de point de suture. Tu vois,
mais tu vois, mais par exemple, je sais pas, peut-être plus infirmière ou peut-être plus, voire tu vois, je sais pas, la chair, quelqu'un qui se casse la figure, puis t'as toute la chair. Peut-être que là, je serais. Après, tu t'habitues. Comme tout, je pense que tu t'habitues. Mais c'est vrai que.
Non, pédicure, podologue, il n'y a rien de.
Le pu, je crois que ça me fait mal.
Je t'avoue. Je peux comprendre.
Mais bon. C'est personnel. Bon, on apprend en formation, on apprend sur le pied.
C'était ta question, effectivement. On apprend le pied, ensuite on va apprendre tout le squelette du membre inférieur et uniquement la colonne vertébrale en plus.
D'accord.
D'accord, ça en anatomie, les muscles qui sont autour. Mm-hmm. Donc voilà, c'est vrai que l'anatomie du membre inférieur, on la connaît parfaitement. Bon, ça fait 10 ans que j'ai mon diplôme, alors on oublie certaines choses après.
Oui, c'est pour ça qu'on a des livres.
On apprend
à les chercher. Exactement. C'est ce qu'on apprend pendant les études.
Parfois, il faut une piqûre de rappel. On a des notions sur pas mal de, comment dirais-je, c'est les cours de santé publique et puis même de maladies. En fait, on apprend les grandes lignes sur les grandes épidémies, sur les grandes maladies, le... Enfin, il faut qu'on connaisse certains signes cliniques. Par exemple, on est très fort pour la goutte ou pour la polyarthrite rhumatoïde, des choses comme ça, même si en vrai, on n'est clairement pas médecin. Mais il faut qu'on ait des notions. Mm-hmm. Même le diabète, on sait énormément de choses sur le diabète et comment ça fonctionne parce que bah, quand on aura un patient diabétique, il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Donc, on a aussi quelques cours de pharmacologie. Et puis après, bah, de toute façon, c'est toutes les pathologies du pied. Oui, ça, c'est évident qu'on doit les connaître.
Et sur la motricité, vous en avez ?
Et puis, merci, tu me rafraîchis un peu la mémoire, tout ce qui est biomécanique.
Ouais.
Ça, on est... Exactement. Et puis, on apprend aussi des pathologies comme Parkinson, des choses comme ça. Il faut...
Une des questions que je me pose, en fait, tu fais des... on bascule peut-être plus sur le plan semelle, mais quand tu fais des semelles à une personne, moi, j'ai vu beaucoup de personnes arriver avec des semelles et qui, dans leurs chaussures, elles avaient plus mal. Mm-hmm. Et donc, du coup, toute la journée, elles avaient plus mal. Mais dès que, en fait, elles enlevaient leurs chaussures, leurs semelles, bah, elles étaient de nouveau complètement... Enfin, tu vois, la posture... Tu vois ce que je veux dire? La posture qui retombe et où t'avais pas l'impression qu'elles avaient intégré, en fait, le fait que, je sais pas, elles aient un pied qui... Enfin, je connais pas du tout exactement les pieds qui tombent ou tout ça. Et que donc, du coup, je sais que j'ai accordé, surtout avec les personnes âgées, beaucoup de temps... à travailler en fait les pieds, les sensations dans les pieds, ou à travailler juste la cheville, ou juste la mobilité du pied, pour que même si en effet leurs pieds, avec des semelles, tu vois, les appuis et tout, mais que quand elles aient pas de semelles, qu'elles aient quand même des repères. Mais je sais pas si je faisais...
T'as très bien fait, et c'est un super complément ce que tu fais. En fait, les semelles, de toute façon, tu vas venir dès qu'il y aura un déclic, donc comme je te disais, soit une douleur, soit vraiment un signe clinique. Maintenant, c'est sûr qu'un adolescent, un jeune adulte qui vient...
On a un petit bébé à côté, si jamais les petits bruits, c'est normal.
En fait, quand c'est des adolescents, par exemple, qui vont avoir un pied valgus, on peut espérer redresser un petit peu le pied en jouant sur certains muscles,
D'accord.
comme le tibial postérieur, tout ça, des muscles qui sont garants de l'arche interne. Maintenant, si finalement ton trouble ostatique apparaît une fois que tu as 40 ans et que tu vas consulter ton podologue à ce moment-là, ta croissance, elle est terminée. Donc, c'est beaucoup plus dur, malgré les semelles, ce sera dur, en fait, si tu veux, on aura beau mettre des éléments, les placer à certains endroits pour vraiment que ça envoie un impulse à ton cerveau, tout ça. En vrai, à 40 ans, ton pied, il est quand même déjà bien fait. Tes muscles, tout ça, enfin, ta stature, ta statique, elle est définie. On aura beaucoup de mal à la changer. Donc, c'est pour ça, comme tu dis, que quand tu seras sur tes semelles, tu te sentiras super bien. Et dès que tu enlèveras tes chaussures, malheureusement, tu seras moins bien. Maintenant, si pendant 8 heures de la journée, tu as porté tes semelles, je pense que finalement, le soir, tu piétines et tu es beaucoup dans ton canapé. Finalement, quand tu es pieds nus, tu vas pas faire des grosses distances. Donc, en théorie, les douleurs, elles reviennent pas tellement. Mais c'est vrai qu'on peut pas.
De toute façon, en fait, si t'es en stade, enfin, si t'es, parce que t'es rarement, enfin, si t'es dans tes chaussures avec tes semelles, de toute façon, tu vas travailler tes appuis d'une manière. Enfin, c'est maintenant que j'y pense, mais tu vas travailler tes appuis d'une manière où, en fait, de toute façon, ta musculature, elle va de toute façon changer.
Voilà. Et puis, il y a des semelles qui vont être plus justement pour stimuler. Et parfois, il y aura des semelles qu'on appellera davantage de confort. C'est-à-dire qu'un
D'accord.
adulte, pour peu qu'il soit bon, légèrement en surpoids. En plus, on va dire que c'est quelqu'un qui a des enfants, qui a très peu de temps, enfin, comment dirais-je, d'aller faire du sport, de prendre soin de lui, de faire sa rééducation. Et ben, on préfère lui mettre une semelle de comblement. Donc, avec une grosse semi-coupole, les bons. Enfin,
Les
s'il
bons
faut, on met
sabres, ouais.
des petits éléments à l'arrière, qu'on appelle des coins supinateurs pour vraiment le redresser, tout ça. On va lui mettre des petits éléments sous sa première tête métatarsienne, donc en arrière du gros orteil, pour finalement être sûr que la journée soit vraiment bien. Et puis en plus, j'insiste un peu sur le côté surcharge pondérale, parce que plus t'es lourd, plus c'est difficile
Bien répartir tes appuis.
voilà, et puis de. Puis de toute façon, c'est vrai que quand t'enlèveras tes chaussures, malheureusement, le poids du corps fera que ça reviendra encore plus vite. On veut surtout que la journée il soit bien dans ses chaussures. On part du principe qu'une fois qu'il est à la maison, finalement, tu rentres tard le soir, quelques heures après, tu es déjà au lit, puis le matin, tu remets tes chaussures pour repartir travailler. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que les gens qui viennent pour des semaines, on pose vraiment des questions sur le chaussant. On a besoin de voir les chaussures, leur style de chaussures. Et puis, on a besoin d'être sûr finalement qu'ils marchent, parce que quelqu'un qui serait toute la journée finalement à la maison, tout le temps assis dans le canapé, qui fait rien, à un moment donné, est-ce que ça sert à quelque chose de lui faire des semelles? Non. Les semelles, c'est utile pour quelqu'un qui va se déplacer, qui va
Qui est
bouger
dynamique.
dessus. Ou même piétiner, mais
D'accord.
en tout cas, quelqu'un qui sera debout. Une personne finalement qui est tout le temps assise et qui sort peu et qui va faire ses courses en étant en voiture et qui va au drive. Alors là, je caricature vraiment, hein, qui prend son sac, qui rentre et qui se pose sur son canapé. Sincèrement,
Ouais, ces
ça ne sert
semelles,
pas à grand-chose.
elles vont pas changer grand chose.
Et
D'accord.
voilà, et c'est vrai qu'un enfant qui porterait des semelles vers 10-12 ans, lui par contre, son pied peut vraiment se remettre dans une bonne posture et peut-être même qu'à 18 ans, il n'en aura plus du tout besoin et qu'on aura réussi à changer et rétablir des bons appuis parce qu'il était
D'accord.
en croissance.
Et qu'est-ce qui fait que... Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut faire qu'un enfant... Parce que les enfants, enfin, les bébés, quand ils naissent, ils ont les pieds plats, non?
Alors, les enfants, en fait, ils vont avoir jusqu'à 2 ans, au contraire, les pieds très en varus et puis après très en valgus. Bon, quand ils naissent, ils ont souvent les pieds très recroquevillés parce que dans le ventre de la maman, ils sont tellement dans cette position fœtus avec les pieds. Enfin, les premières semaines, il ne faut pas trop regarder leurs pieds, ils se remettent tranquillement. Après, on te dit souvent que tu peux leur passer une petite plume sous les pieds. Bon, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de mamans qui fassent ça tous les jours. Mais tu
Non.
verras que. Et puis après, on va dire que les 2 premières années, ben, mine de rien, cette épaisseur de couche qu'on te met entre les cuisses t'oblige un petit peu quand même à avoir cette position un peu comme un tonneau. Et c'est vrai qu'on verra qu'ils sont souvent en varus et à partir de 2 ans, au contraire, ils vont plus passer en valgus. Donc,
Donc,
plutôt
valgus
l'intérieur du pied.
vers l'extérieur et valgus vers l'intérieur.
Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je te disais, c'est à partir de 7 ans qu'on dit qu'ils ont vraiment leur démarche définitive, entre guillemets. En fait, de 2 à 7 ans, ils sont en train. Bah, d'abord, c'est le moment où ils acquièrent la marche, tout bêtement, parce que jusqu'à 2 ans, ils marchent. Enfin, allez, la marche, elle arrive entre 12 mois et 20 mois. Et puis après, bon, ils savent marcher, mais enfin, ils commencent à courir, à sauter, à vraiment se mouvoir bien passé 1 an et demi. Donc, voilà, vraiment, l'enfant, faut pas trop s'inquiéter quand à 2 ou 3 ans, tu as l'impression que ton enfant pose le pied complet en entier au sol. C'est possible, mais c'est pour ça vraiment que j'insiste. C'est vraiment à partir de 5-6 ans qu'on regarde bien. Et en général, on met les semelles qu'à partir de 7 ans.
Et toi, c'est quelque chose que tu as regardé chez ta fille?
Alors
Ou
moi, ma fille qui a 2 ans ce mois-ci,
par des formations
eh bien
professionnelles?
justement, pas du
Ah,
tout.
c'est vrai?
Je
C'est
sais qu'elle a
quoi?
mes pieds, elle a mes orteils, elle a ma forme de pied, mais je regarde pas plus que ça.
Ok.
Non.
Non, non, mais ouais, je ne sais pas, parce
que
quand
je
tu
sais
te connais
que
à
beaucoup
quelque
trop tôt,
chose...
justement. Mais justement, je sais qu'à 2 ans, il ne faut certainement pas tirer de conclusions hâtives. Quand elle a commencé à marcher, elle posait très bien son pied gauche, mais j'avais constaté que le pied droit, elle mettait surtout la pointe de pied. Elle ne faisait pas un déroulé du pas correct, elle n'attaquait pas avec le talon. Ça, je l'avais vu et tout de suite, je m'étais dit, bah zut. Et puis en fait, en quelques semaines, c'est passé. Je pense qu'il faut les laisser aussi découvrir leur corps.
Ouais, c'est...
On dit par contre que les enfants, c'est très bien de les mettre pieds nus le plus possible ou alors avec des chaussons en cuir souple. Éviter la petite bottine montante qui leur tient la malléole. Ça, en fait, c'est un petit peu des idées de grand-mère ou de la génération au-dessus de nous. Moi, ma mère, hein, elle veut tout le temps lui mettre des petites bottines. En vrai, il faut les laisser un peu découvrir. Il faut qu'ils cette proprioception, qu'ils l'aient, en fait, qu'ils intègrent. Ils se feront pas d'entorse parce qu'ils sont hyper laxes. Leurs ligaments, voilà, sont très laxes. Mais il faut que l'enfant comprenne que parfois, c'est du sable, du gravier, de l'herbe, de la terre, un sol un peu en pente. Et en fait, ils vont comprendre aussi, leurs capteurs, c'est important. Ils doivent sentir le sol, ils doivent sentir quand ça bouge. Alors évidemment, il ne faut pas qu'ils attrapent froid. Donc quand il fait frais ou si, voilà, en fonction du sol de la maison, on adapte. Mais moi, je suis quand même plus partisane du chausson en cuir souple qu'un chausson une petite boue.
Donc du coup, oui, on disait que c'était pour leur proprioception que, il fallait les laisser le plus possible à le...
Voilà, et puis même pour cette articulation, un enfant, si vous lui bloquez la cheville, eh ben, vous allez le rendre fragile au niveau de la cheville, il fera plus facilement des entorses.
Il y a énormément de personnes, non, qui ont les chevilles pas musclées. Enfin,
Alors, je ne sais pas si
à
le
la
terme est
montagne,
muscle ou musclé, mais...
à la montagne, je sais pas, peut-être moins, j'ai envie de te dire. Enfin, peut-être que le mot n'est pas musclé, en effet.
Si on libère cette cheville, et plus vite, plus jeune on le fera, plus l'enfant intégrera aussi que... Quand il sent qu'il est un peu en train de se casser la figure, il va se faire léger. En fait, il va apprendre à chuter. Et c'est bête, mais quand on se fait une entorse, quand on court en montagne, d'ailleurs, les trailers, ils ont des petites baskets tout malléolaires, hein. Ils n'ont pas de chaussures de randonnée. Et finalement, quand on sent parfois qu'on est à moitié en train de se tordre la cheville, il faut savoir se faire hyper léger et puis tout de suite basculer son poids du corps sur l'autre pied. Et ça s'apprend. Et c'est instinctif, enfin, c'est pas le terme, et puis c'est pas inné non plus, mais je veux dire, c'est quelque chose finalement qu'on a intégré et on sait que, oula, quand on sent que la cheville elle est en train de partir dans un mauvais sens, vite on bascule de l'autre côté pour la soulager. Et ça, on peut le comprendre que si on s'est déjà fait des petites entorses, justement.
Non, puis c'est vrai que chez les enfants, tu le remarques. S'ils marchent dans le sable ou si tu les changes de... Ben, tout d'un coup, ils adaptent une autre démarche ou une autre manière
de faire
pour avoir, ben, plus, pour être plus,
Ils cherchent leur stabilité,
exactement,
ils vont
plus
la trouver
stable.
tout seuls, tout à fait. Et finalement, c'est peut-être comme ça qu'on prévient le mieux les entorses plus tard.
C'est fou. Non, mais c'est fou parce que pendant des années, on a pensé qu'il fallait vraiment avoir des grosses bottes, des choses
Plus
bien.
tu bloques l'articulation,
Exactement.
plus tu la rends fragile au final, plus elle sera faible. Il vaut mieux qu'elle ait l'habitude. Son rôle, elle est là pour... Elle peut faire aller le pied dans les trois axes, dans les trois plans, et il faut l'utiliser. Donc, il faut savoir bien l'utiliser, c'est la seule chose.
Ouais. Maintenant, j'ai envie de savoir, toi, quel est ton rapport au mouvement, bah, au sport en général, mais bon, t'es une grande sportive, t'es moins sportive en ce moment, parce que t'as donné naissance à un petit garçon il n'y a pas du tout longtemps, donc... Et du coup, comment ça t'est venu, déjà, cette envie de sport, parce que tu courais, ben...
Ben, moi, j'ai la chance en fait
Mmh.
d'être issue d'une famille de sportifs. Dans le sens où, de toute façon, ma mère a toujours voulu aller au travail à pied. Son travail était
Okay.
à 5 km de la maison, donc déjà, elle marchait 10 km par jour.
C'est vrai?
Il y avait 2 soirs par semaine complètement où elle allait à la gym au stretching, et puis il y avait une matinée où elle allait faire de la poitrine. Donc, c'est vrai que. Et mon père, lui aussi, avait déjà couru des marathons. Je pense que mes parents ont toujours favorisé la marche à pied plus que la voiture. Et puis, ils trouvaient que ma mère me disait, j'aime aller au travail en marchant parce que ça me vide la tête.
Ah, mais je comprends.
Et puis, alors, elle avait un super rythme. Elle mettait 50 minutes pour aller arriver à son travail. Et puis, elle me disait, bah, comme ça, j'ai pas besoin de faire du sport dans la semaine. Enfin, ça, on est plus tonique, ça tient en forme, on grossit moins. Enfin, je veux dire, et puis,
Oui.
voilà, le sport, ça libère plein d'hormones qui font qu'on se sent bien. Donc moi, quand j'étais petite, mes parents ils m'ont inscrite dans plein de sports, peut-être aussi pour avoir plus de temps pour eux. Et du coup, j'ai grandi en faisant plein de sports différents et
On
j'ai
pourra en
adoré ça.
découvrir.
Et c'est vrai que, puis en plus, après, quand tu fais du sport, ben, que ce soit un sport individuel ou tu es à la recherche de ta performance ou un sport d'équipe ou au-delà de la performance, il y a aussi le côté amitié avec l'équipe et puis tous les fous rires que tu peux partager et puis les défaites. Enfin, en fait, c'est tellement d'émotions.
C'est vrai.
Ça va de la victoire à la défaite et puis c'est des anecdotes et tu passes des moments avec tes amis. Enfin voilà, moi je pense que le sport, c'est très bon pour... voilà.
Ouais, non, c'est...
Et puis le sport, ben, y a pas photo, ça te garde en bonne santé, quoi. Tu peux de temps en temps faire un bon repas et boire du bon vin sans culpabiliser parce que finalement tu sais que t'as pas de kilos en trop. Enfin, je veux dire, tu te sens pas essoufflée. Enfin, voilà, moi c'est vrai que je suis pas fumeuse, je n'ai jamais fumé, tant mieux pour moi.
Mais du coup, t'as commencé par quoi comme sport? T'as fait quoi comme sport?
J'ai fait du judo, de la gymnastique et de la natation.
Ok.
C'était mes parents qui avaient choisi, j'avais 6 ans.
Comment c'est le judo à 6 ans?
Ils ont pensé que faut mieux pour que je me défende. Alors maintenant, bah, comme je suis en couple, tu le sais, avec un basque, notre fille de 2 ans, c'est déjà prévu. Dans 2-3 ans, on la met au rugby. Et par chez nous, il y a un club d'aviron, puisqu'il y a un joli lac. Et du coup, on a pensé que si ça l'intéresse, moi, je la verrais bien à l'aviron. Après, justement, j'ai un patient qui travaille là-bas qui m'a dit on ne prend pas les enfants avant 10 ans parce que l'aviron, justement, c'est un sport très complet qui va tellement muscler à la fin, tout le corps, ouais, le haut du corps comme le bas du corps, qu'il m'a dit on attend quand même que les enfants aient vraiment 10 ans avant de les mettre sur le bateau parce qu'un enfant de 6 ans, par exemple, ça serait justement peut-être un effort trop musculaire, trop intense pour un enfant de trop jeune. Et puis la course à pied, pour en revenir à ce que tu disais, excuse-moi, c'est vraiment le sport le plus facile. T'as pas besoin d'avoir des horaires, parce que dès que tu veux faire du sport en club, faut t'arranger pour être disponible chaque soir de la semaine à telle heure. Au moins la course à pied, t'y vas quand tu veux, quand tu peux. En termes de matériel, il faut juste une bonne paire de baskets, une bonne brassière. Pour le reste, voilà, c'est quand même très facile. Et parce qu'en plus, moi, c'est toujours des vieux t-shirts. Hein. C'est pas des, il y a pas forcément besoin d'avoir le t-shirt dernier cri qui absorbe la transpiration. non, tu prends n'importe quelle sorte de t-shirt, c'est pas grave. Et tu peux y aller quand tu veux. C'est juste que si tu vas en hiver et que la nuit est déjà tombée, ben, je mets une frontale devant, une frontale derrière. Oui, voilà, pour être bien visible et puis des bandes réfléchissantes. Mais c'est vrai que la course à pied, c'est très facile quand t'as une vie de famille. Mm. Par contre, la course à pied, tu peux pas le faire si tu as un petit surpoids. On est bien d'accord que quelqu'un qui aurait déjà des petites douleurs aux genoux ou des chevilles un peu fragiles et qui veut reprendre le sport ou commencer le sport, il vaut mieux commencer par de la marche rapide, active, et de la natation. Ouais. Aller à la piscine. Parce que quand tu es un petit peu en surpoids et que tu veux mincir, la course à pied, c'est très traumatisant pour tes genoux.
Je me faisais la réflexion. Tu vois, on n'hésite pas en fait à faire... Je pense qu'on n'hésite pas à faire des choses avec nos enfants. Tu vois ce que je veux dire? Que c'est pas ce qui te stoppe. Je me suis posé la question de dire comment tu transmets à tes enfants bah justement cette envie de bouger, cette envie bah justement de faire du sport, de tout ça, alors que maintenant, tu vois, on est plus... bah c'est vrai qu'on a tous des téléphones portables, qu'on est... Enfin, tu vois, que c'est compliqué d'un côté d'aller contre le...
Mais je pense
que
là...
Tu comprends ce que je veux dire?
Je vois très bien, mais alors moi, je me fais pas de soucis pour nos enfants, parce que je sais que toi comme moi, déjà, on est très peu poussettes. On a deux petites filles quasiment du même âge qui marchent énormément et qui ne rechignent jamais à marcher. Et quand elles sont fatiguées, toi comme moi, on les met sur les épaules. Je ne pense pas que tu sois une grosse addict au téléphone. Je t'imagine difficilement dans le canapé toute la journée avec ton portable dans la main. Et du coup, je pense que...
Ouais, voilà. Ça dépend. Mais c'est vrai qu'en week-end, ben là, j'ai plus de batterie depuis 3 jours, depuis qu'on est arrivé.
Donc, tu n'es pas une grosse addict.
C'est pas grave.
Il y a des gens qui ne survivraient pas.
C'est vrai.
Non. Et en fait, nos enfants vont reproduire les schémas. Et puis, de toute façon, ta fille, quand il va faire beau et qu'elle aura 3 ans, tu vas l'emmener faire des longues promenades, peut-être faire du bateau, de la barque. Tu vas l'emmener faire... Enfin, tu me parlais hier de sa draisienne. Donc, tu es déjà en train de lui donner... tu lui tends cette perche en fait, à vouloir être dehors. En plus, elle est déjà en train de travailler son équilibre, elle trouve ça très drôle. Elle prend plaisir à être sur sa draisienne, elle découvre finalement qu'elle peut pencher à gauche, à droite, que si elle se met bien au centre et qu'elle contracte tout, ben ça va tout droit. Et en fait, d'elle-même, elle découvre et elle trouve ça super. Ouais. Et finalement, tu es en train de lui transmettre. Et puis après, quand elle arrivera à l'école, c'est plus surtout à partir du CP où tu choisis vraiment des sports. Et je pense que de soi-même, tu diras, tu lui demanderas qu'est-ce qui te ferait plaisir.
Elle sera au rugby aussi, voilà.
Non, ça, je ne suis pas inquiète. Je pense, pour moi, c'est quand tu es dans une famille sportive, tu te retrouves sportif. Je pense, les chiens ne font pas des chats. Je te vois bien un jour où il fait beau, en été, partir faire un pique-nique avec des copains. Je connais ton homme, je sais qu'il prendra un petit ballon de rugby. On dépasse,
c'est vrai,
ta fille va voir ça, elle va vouloir courir après le ballon avec eux. Peut-être que toi et tes copines à côté, vous ferez la roue, vous ferez d'autres choses dans l'herbe. Et en fait, tu vas donner envie à ta fille de faire des galipettes, de courir après le ballon et d'être pieds nus dans l'herbe. Et c'est ça et qu'elle va retenir. Et elle va se souvenir qu'elle y prend un plaisir fou. Et en fait, tu fais déjà une petite sportive. Et tu fais un enfant qui aime être dehors. Et regarde, un petit peu, nos filles, elles veulent mettre les bottes et elles veulent aller sauter dans les flaques. C'est plutôt bien.
C'est vrai.
Tu vois, elles demandent pas à rester à l'intérieur.
Et donc, du coup, après, pour en revenir à toi, tu as continué à faire pas mal de choses avant de...
Moi, j'ai fait du rugby, mais du beach rugby.
Ouais.
Donc, on était sur la plage, donc toutes pieds nus. Donc, je pouvais même pas proposer des semelles aux copines. Mais non, c'était sympa. Voilà, c'était un rugby beaucoup plus soft, sans plaquage, sur le sable.
Non, ouais, mais sur le sable, chouette. C'était un...
plus physique encore.
Ouais, exactement.
Mais les parties sont plus courtes. Enfin, voilà, non, mais pour en revenir à moi, c'est vrai que dans mon métier, j'ai la chance d'avoir plein de sportifs et qui veulent des semelles justement pour prévenir des entorses ou des choses comme ça, ou parce qu'ils ont toujours mal aux genoux, aux hanches, dans le dos. Et c'est un plaisir de discuter avec eux.
Mais c'est ce que tu me disais, que les pieds de sportifs, c'était
quoi
exactement ?
C'est toujours les plus moches. C'est souvent des traces d'hématomes sous les ongles. Alors, disons que c'est des petits hématomes où il n'y a pas réellement une pose de sang complète, mais en tout cas, l'ongle, il est quand même un peu violet. Ils ont toujours des cornes. En plus, les grands sportifs, ils ne veulent pas qu'on leur retire toute la corne parce qu'ils savent que sinon, ce sera trop sensible. Donc, ils veulent en garder un petit peu. Enfin, c'est des pieds qui sont très moches. Et je te disais en rigolant que souvent, les pieds des personnes âgées en maison de retraite, puis des personnes qui sont vraiment alitées, et ben par contre, elles ont des très beaux pieds. On y va pour couper les ongles, mais la plante de pied, elle est parfaite. Mais voilà, c'est... En vrai, il vaut mieux un pied plein de cornes, mais qui bouge énormément, qu'un pied tout lisse qui reste assis toute la journée, quoi. C'est ma philosophie, enfin, c'est ma vision.
Ouais, oui, non, mais c'est clair, chacun...
Bon, et parfois, il y a des femmes, ça arrive, c'est rare, mais il y en a certaines qui font du sport et qui ont des pieds magnifiques. Ça, ce sont les exceptions.
Ben oui, mais moi, j'ai dans la tête, tu sais, j'ai les pieds, parce que j'ai côtoyé beaucoup de danseuses, les pieds des danseuses. Ou tu sais, quand tu les vois quand tu vois les chaussons, les pointes, tu sais, t'as cette élégance. Mais souvent, c'est souvent, par exemple, elles ont tu sais, l'os...
Oui, de talus valgus.
Exactement.
À part sur la pointe de... Ouais.
Qui sont assez impressionnants et elles ont les pieds ouais.
Oui, et puis je pense qu'une danseuse elle est très fine, très très mince, et en plus tu dois avoir tous les tendons parce que dans le pied il y a quand même beaucoup de dos, articulations et de muscles, et du coup ça doit faire des pieds un peu maigrichons mais avec plein de tendons qu'on voit bien, quoi. Et c'est vrai que c'est pas les plus jolis en effet. Et
puis les ongles, à force d'être en appui sur les
ils
ongles
s'épaississent.
Les ongles,
des micro-traumatismes, ouais. En fait, toute la journée, ils ont tellement de chocs,
ouais,
qu'effectivement, ils vont s'épaissir.
Mais du coup, en fait, les sportifs de haut niveau, au niveau des pieds, par exemple, tu remarques qu'un sportif de haut niveau aura beaucoup plus... Enfin, il y a tout qui est accentué, en fait.
Il y a
beaucoup plus de
cornes,
il y a beaucoup plus de choses que chez une personne lambda.
Et puis, par exemple, alors moi, je reviens encore sur ces trailers. J'ai des patients, parfois, qui partent faire des trails qui font 200 ou 300 km hein, sur une semaine. Et en fait, eux, un mois avant l'épreuve, ils vont se tanner le cuir, enfin la peau, le peau du pied, quoi. Alors, soit avec des crèmes, on ne va pas citer de marque, mais il y a des crèmes qui font ça. Soit la technique toute bête, au final, c'est de prendre un citron et de frotter un petit peu tous les jours, matin et soir, sa peau avec. Et ils veulent que la peau durcisse parce que finalement, ce sera un petit peu leur protection. Ils veulent être sûrs de ne pas avoir d'ampoule et qu'une peau tannée ne fera pas d'ampoule.
Ok. Mon grand-papa, il marchait dans le gravier.
Ouais. Pour durcir sa peau.
Ah oui, il était pieds nus dans le gravier. Et il ne sentait rien.
Bah ouais, mais parfois... Au mais moins, quand ensuite il allait faire des longues randonnées, il craignait pas d'avoir une ampoule.
Ah non. Toi, est-ce que tu veux développer cette clientèle-là, enfin, dans le sens d'avoir des sportifs,
oui
d'avoir... T'es quasi en station de ski,
non? Voilà. Alors, oui et non. Moi, les sportifs, en fait, j'aime beaucoup les sportifs assez modestes et qui se prennent pas la tête.
Ok.
Maintenant, le sportif qui est tout le temps à la recherche de performance, qui n'a que ça en tête, c'est pas toujours les patients que je préfère avoir parce que finalement, parfois, ils sont très très exigeants. Et pour faire un petit jeu de mots, parfois, moi, je les trouve très casse-pieds.
Ouais, c'est pas le même soin.
Ben, certains vont finir par penser Et justement, ils perdent un peu cette notion. Ils oublient qu'ils sont patients dans leur tête, ils sont clients. Et moi, je suis là pour les aider à être encore meilleurs. Et attention, voilà, moi, je ne suis pas coach. Je suis... Disons que j'ai déjà eu comme ça un patient très sportif qui est venu me revoir plusieurs fois pour les semelles, alors que tout allait bien. Mais il voulait quand même qu'on refasse des tests. Il voulait confirmer ses appuis. Il voulait vérifier, voir le suivi. Enfin, franchement, je suis désolée, mais moi, je trouvais que.
Non, c'est pas ce que tu as envie de faire.
Non, voilà. Alors après, attention, ils ne sont peut-être pas tous comme ça. Mais c'est pour ça. Moi, les sportifs sympathiques, plus, oui. Mais celui qui est professionnel, tout ça, à la limite, j'aime autant qu'il voit le podologue de l'équipe. Ouais, c'est voilà.
Ouais, ouais, non, c'est un autre métier.
J'aime travailler avec des sportifs, mais
t'aimes rester dans l'aide. Tu les aides et t'es pas forcément le but. Ton but, c'est pas.
En fait, moi, j'ai soigné des gens, enfin, j'ai fait des semelles à des patients qui avaient un métier et qui, à côté de ça, faisaient de la course à pied. Ouais. Et puis, ils me disaient, oui, ça fait plusieurs mois que j'ai vos semelles, mais j'ai toujours pas progressé dans mes chronos. Ben, tu vois, il dit ça, moi je comprenais pas trop cette phrase. Écoutez, moi je vous ai fait des semelles pour que vous ayez moins mal dans vos lombaires. Maintenant, si votre chrono il a pas bougé, j'y suis pour rien. Quand je peux pas faire une semelle qui va vous faire courir plus vite, ça n'existe pas.
Après, c'est travailler avec l'humain. Donc,
mais ça, j'aime.
Choisi.
Travailler avec l'humain, c'est chouette.
Ah bah oui.
Mais de toute façon, voilà, comme pour tout, on peut pas plaire à tout le monde. Et souvent, tu verras que, enfin, moi j'ai constaté que les patients finalement avec qui ça passait moins bien, ils reviennent pas de même. Donc je pense en fait que ça se fait dans les deux sens. Et voilà, c'est comme ça.
Et maintenant, tu es contente de ton travail en libéral dans ton cabinet
Je suis très
Ça fait combien de temps que tu es installée?
Alors que j'ai mon propre cabinet, ça va faire 5 ans. Et avant ça, c'était 5 ans en faisant des remplacements.
Ouais.
Oui, je suis ravie. Et puis du coup, ben, tu bosses tout seul, tu fais après tes horaires un peu en fonction de ta vie de famille. Le plus dur, finalement, c'est l'administratif. Et c'est pour ça qu'il y a des comptables.
Il faut un métier pour tout le monde.
Voilà. Mais moi, être avec les patients et m'occuper d'eux, ça me va très bien.
Le podcast s'appelle Les artisans du mouvement. Chez toi, qu'est-ce que ça t'évoque?
Tu me pièges. J'étais pas préparée à cette question. Ton titre, je trouve drôle parce que artisan, l'artisanat, c'est quand même des métiers manuels. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que tu as choisi ça. Et pour moi, un artisan, c'est quelqu'un qui va fabriquer quelque chose. Tu vois, je pense que quand tu fais des travaux chez toi, tu réfléchis à quels artisans, quand tu as ton sol à refaire, tes murs, des tapisseries, des choses. Enfin, tu demandes toujours quel artisan tu vas appeler. Donc, les artisans du mouvement, quelqu'un qui t'aiderait à fabriquer un mouvement. En fait, ça serait assez drôle. Enfin, ton titre, je le trouve inattendu parce que justement, on a un peu du mal à s'expliquer, mais ça fait un joli. C'est poétique parce que personne ne va te fabriquer un mouvement. Mais, enfin, tu n'es peut-être pas d'accord avec ça. Mais.
Ah non, mais.
Bah moi après je pense, ça. Oui, il y a des gens comme toi qui vont aimer tout ce qui est gyrotonique ou pilates, yoga ou des kinés effectivement qui vont te montrer peut-être un bon mouvement, qui vont te montrer comment il faut le faire. Après moi je suis à 100% dans le sens où je suis d'accord avec toi que le mouvement c'est la vie, il faut bouger. Enfin, dès lors que tu arrêtes de bouger en fait après c'est un cercle vicieux où tu as de moins en moins envie de bouger et puis en fait ta santé elle se dégrade et que plus tu bouges et plus tu es en bonne santé. Ça, j'en suis parfaitement consciente, je suis d'accord avec toi. Et je pense que pour certaines personnes, parfois, qui n'ont peut-être pas eu l'habitude de bouger, qui connaissent pas les bons mouvements, c'est très intéressant, c'est très bien qu'il y ait des personnes qui soient capables de les guider. Parce que, effectivement, un mouvement qui serait mal fait pourrait mener à des douleurs. Enfin,
non, c'est clair. Mais pas tout le monde a la même vision de son corps. Pas tout le monde. Ce qui m'intéresse, c'est de voir chez les gens que ça évoque, parce qu'en effet, l'artisanat, c'est créer quelque chose, et qu'en fin de compte, bah, on crée tous du mouvement. Parce qu'on est tous, on est censé tous être en mouvement, et on est tous en mouvement perceptuel. Donc en fait, on peut tous créer du mouvement.
Mais c'est marrant, parce que le mouvement, parce que tu vois, artisanat, on pense à une poterie, à un souffleur de verre, à quelque chose qu'on va garder ensuite, qu'on va poser sur une étagère. Et c'est vrai que le mouvement, on va pas le poser sur une vitrine, tu vois ce que je veux dire?
D'accord. L'artisanat, je pense plutôt justement à l'artisan qui est en train de créer quelque chose, mais de créer quelque chose qui va durer, qui va être utile. Donc du coup, c'est plus dans ce sens-là où je me dis que moi, en fait, toutes les personnes que je peux rencontrer, pour moi, c'est des artisans du mouvement. Parce qu'en fait, soit ils incitent les gens à se mettre en mouvement ou à faire, à faire quelque chose, mais pour moi, ça peut aller même jusqu'à un prof de théâtre, parce qu'en fait, il apprend à une personne à poser sa voix. Dans sa voix, c'est un mouvement. Parce qu'en fin de compte, nous, notre corps sans mouvement, on est mort.
Mais t'as raison. Mais tu m'ouvres les yeux, je ne l'avais pas vu comme ça.
L'artisanat, pour moi, c'est dynamique. Mais c'est vrai, je l'avais jamais vu l'artisanat Enfin, en fait, je vois plus la personne en train de faire plutôt que l'objet.
Le travail final.
Voilà, exactement. Ouais. C'est vrai qu'une poterie, c'est pas très dynamique. Ça, je suis d'accord avec toi. Bon, mais du coup, merci beaucoup. Et c'était super intéressant comme discussion.
Je suis très heureuse, Elissa, que tu m'aies proposé de faire ce podcast, que tu aies estimé que ma profession pouvait rentrer dans les critères et que mon opinion puisse t'intéresser. Bah, ça me fait plaisir. J'espère avoir dit des choses intéressantes.
Ah oui.
Et moi, j'ai passé un réel plaisir à partager ce moment avec toi.
Bah, je suis contente.
Encore une fois, merci à Pauline de s'être prêtée au jeu de l'interview, qui n'est pas si facile à faire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet. Ah oui, encore une petite chose. Si vous êtes intéressé à participer au podcast, à venir parler de votre métier, de sa relation avec le mouvement, à venir présenter une méthode que vous affectionnez particulièrement ou un projet, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire sur mon compte Instagram @lesartisansdumouvement. Bonne semaine !